1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Nous allons débuter cette émission avec ce soir la suite de la thématique qui nous occupe pendant ce mois de mai. Il s'agit de la campagne au nom du profit des multinationales. Alors Fabio, après l'électronique et le pétrole, ce soir nous parlons textile.
On va parler du textile effectivement avec deux collaborateurs de la déclaration de Berne. Olivier Longchamp et Géraldine Viré.
Voilà, c'est dans un instant. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents. Nous allons recevoir la rédaction de Voix d'Exil pour parler ensemble d'une période difficile, celle du deuil, mais il sera question du deuil à distance. Toujours dans la Rose des Vents ce soir avec Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabien.
Nous parlerons outils pour lutter contre l'impunité et la défense des droits de l'homme au Congo.
Effectivement, on en parlera avec Samy Mukomozi, qui est donc avocat dans le sud du Kivu et qui met en place avec Viveré les chambres foraines, les tribunaux itinérants.
Effectivement, ouais, ce sera tout à l'heure à 18h30. À 7h20, nous passerons à Cultiver Lausanne avec Jean-Luc, bonsoir.
Salut.
Et des découvertes musicales.
Oui, c'est l'association Treux qui a invité Faible Wifil pour qu'il vienne présenter son dernier disque.
Donc, voilà. Et puis la petite surprise, on la dévoile ou bien pas?
Tu peux toujours tout dévoiler, c'est vraiment.
Le musicien en question sera là.
Mais oui,
c'est
oui,
sera là. Oui. Pour en parler directement, donc rendez-vous tout à l'heure à 7h20. Et puis, pour conclure cette 56e émission, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle dans la région lausannoise. Le textile dans la série de la campagne au nom du profil des multinationales, le deuil à distance, l'impunité et les droits de l'homme au Congo, des nouvelles découvertes musicales et de Trox, c'est avec Trox, hein, l'association qu'on connaît bien, et puis les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme de ce mardi 24 mai sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud, ou à écouter sur radio.django.fm, et puis aussi à nous suivre ce soir en vidéo sur Facebook Live, sur la page de Radio Django. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Autrement, ça va est un collectif formé par 4 espaces de débat lausannois, l'espace Dickens, la maison de quartier Sougar, Alliance Sud Infodoc et Pôle Sud. Jusqu'au mois d'octobre, ces lieux vous invitent à découvrir une série d'événements autour d'un thème commun consacré aux multinationales. Au nom du profit, tout est permis. Django s'est associé à cet événement pour vous proposer quelques regards radiophoniques après s'être intéressé à l'industrie de l'électronique et au pétrole la semaine dernière. C'était dans nos deux dernières émissions respectivement. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux comprendre le négoce du textile. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Fabio, une collaboratrice et un collaborateur de la Déclaration de Berne.
Oui, déclaration de Berne qui va bientôt s'appeler Public Eye, puisque l'Assemblée Générale du 21 mai, c'est-à-dire samedi dernier, a décidé de changer le nom de l'association. Public Eye qui rentrera en vigueur dès le mois de septembre 2016. On va parler en effet du négoce des textiles aujourd'hui avec Olivier Longchamp qui est avec nous ici en direct. Bonjour Olivier.
Bonsoir.
Et Géraldine Viré qui, dans cet enregistrement que je vous propose d'écouter tout de suite, nous dresse un tableau général des conditions dans lesquelles est façonné le textile dans le monde.
L'industrie textile, c'est un secteur qui, à l'heure actuelle, est profondément inégalitaire. On a vraiment perdu ce lien avec les personnes qui fabriquent les vêtements. Aujourd'hui, on est dans un système de la fast fashion, donc la mode rapide à l'image des fast-food, McDonald's et autres, où on veut produire toujours plus vite, avec des vêtements qui ne sont pas faits pour durer. Les vraies victimes de ce système, ce sont les personnes dans les pays producteurs qui travaillent pour des salaires de misère. C'est le cas en Asie, hein, on connaît bien l'exemple du Cambodge, l'exemple du Bangladesh, mais c'est aussi le cas dans les pays européens, la Macédoine, la Roumanie, où on estime qu'il faudrait que le salaire minimum légal soit 5 fois plus élevé pour que les gens puissent gagner de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc on est face à des gens qui travaillent et qui travaillent beaucoup, mais qui sont incapables de subvenir à leurs besoins avec ce salaire. Parmi les autres problèmes qu'on voit dans l'industrie textile, il y a toute la question de la sécurité, et ça c'est beaucoup plus fort dans les pays asiatiques, notamment au Bangladesh, on l'a vu avec la tragédie du Rana Plaza.
La catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, le vrai prix de notre t-shirt à 5,90 €. Un atelier textile qui s'effondre, 5000 travailleurs pris au piège, plus de 1000 morts.
On a des personnes qui travaillent dans des usines qui ne sont pas sûres, qui manipulent aussi souvent des produits qui ne sont pas sûrs. Face à ces problèmes, les entreprises, elles mettent beaucoup de temps à réagir. Hein. Quand on regarde la question du salaire vital, on voit qu'aujourd'hui, près de 90% des entreprises textiles ne payent pas un salaire vital à leurs couturières. Elles prennent des mesures, mais qui sont souvent des mesures plutôt de communication. Donc beaucoup de belles paroles, mais peu d'actes concrets sur ces questions. Le principe du salaire vital, c'est un moyen de calculer combien concrètement il faudrait gagner pour pouvoir nourrir une famille, donc couvrir les besoins de base. Quand on dit une famille, c'est deux adultes, deux enfants. Besoin de base, ce sera le logement, les vêtements, la santé, le loyer, le transport. Combien il faudrait gagner dans ces pays ? Et puis on a une méthode de calcul qui permet de comparer. Maintenant, on voit qu'au Cambodge, au Bangladesh, par exemple, le salaire minimum légal correspond seulement à 20% de ce qu'il faudrait, donc il faudrait 5 fois plus. Et cette situation, elle est plus ou moins exactement la même dans les pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie, la Macédoine. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une concurrence maintenant au niveau international pour attirer ou pour garder les contrats de l'industrie textile. Ça met une pression sur ces pays, qui sont souvent des pays pauvres, qui dépendent beaucoup de l'exportation, pour ne pas améliorer les conditions de travail dans leur pays. Donc pour ne pas perdre des contrats, les gouvernements peinent à augmenter les salaires minimums. Le consommateur, dans ce tableau, il est pris dans un système où on lui fait toujours plus croire qu'il doit acheter des vêtements. Il doit en acheter beaucoup, il doit en acheter souvent. Et il est un peu démuni. Nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est de réfléchir vraiment à leur mode de consommation. Première chose, c'est de se dire, bon, on va éviter la surconsommation, on va résister à ce message publicitaire qui nous pousse à acheter, et puis acheter plutôt des choses de qualité que beaucoup de vêtements. Et puis surtout, faire entendre sa voix, donc dire concrètement aux entreprises, de différentes manières, que ce soit des pétitions, que ce soit dans les magasins directement, aussi régulièrement que possible, de dire que finalement, les conditions dans lesquelles les personnes qui fabriquent les vêtements se passe, c'est aussi important pour nous, c'est un critère d'achat très important, central, et on veut que ces conditions de travail s'améliorent. La déclaration de Berne, sur son site internet, elle a un dossier conséquent donc sur tout ce qui est conditions de travail dans l'industrie textile, avec aussi une application Fair Fashion qui donne un aperçu des engagements des firmes en matière de salaire vital et de conditions de travail en général.
Géraldine Viret, directrice de la déclaration de Berne, que Fabio, tu as rencontré tout récemment.
Hier même. Voilà, après ce survol général des conditions de production du textile de par le monde, nous revenons en Suisse avec toi, Olivier Longchamp, qui a enquêté sur ce secteur ici dans notre pays. Alors, il faut dire qu'en Suisse, on fabrique peu de textiles, en tout cas pas dans la proportion et dans les conditions qu'on vient de découvrir dans cette introduction. Et pourtant, notre pays est devenu une destination très prisée des géants de la mode. Pourquoi cet attrait pour la Suisse, Olivier ?
Oui, donc c'est quelque chose qui nous a interpellés aussi. On s'est rendu compte qu'on avait toute une série de grands groupes internationaux de la mode, des groupes comme par exemple Armani, Versace, Gucci, North Face, par exemple, qui s'étaient installés en Suisse au cours des 10-15 dernières années, plus précisément au Tessin. Et on s'est posé exactement cette question, mais au fond, pourquoi ces sociétés viennent ici ? Elles ne sont pas là pour produire, qu'est-ce qu'elles viennent faire ? Et la réponse à cette question, après avoir cherché un peu, on s'est rendu compte que ces sociétés venaient ici essentiellement pour des raisons fiscales, qu'elles employaient relativement peu de monde à l'échelle de leur groupe, mais qu'elles fiscalisaient leurs activités ou le bénéfice de leurs activités en Suisse.
Ce sont des pratiques illicites et à dénoncer.
Non, ce n'est pas des pratiques illicites, c'est des pratiques qui sont contestables, c'est des pratiques qui sont illégitimes. Il faut se rendre compte qu'on est avec des sociétés qui produisent ailleurs, qui réalisent la valeur ajoutée ailleurs, qui en Suisse, par contre, vont fiscaliser des bénéfices sans commune mesure avec l'activité économique réelle qu'elles ont ici. Mais c'est des pratiques qui sont, jusqu'à plus ample informé, des pratiques tout à fait légales. On est dans l'optimisation fiscale légale, problématique par contre, puisqu'elle soustrait en fait de la substance fiscale à des pays qui en auraient besoin.
Alors, est-ce que tu peux nous montrer nous expliquer un montage que une de ces grandes marques réalise pour justement échapper au fisc ou trouver une optimisation fiscale ici chez nous?
Alors, il existe une infinité de ces montages. Ces montages sont souvent assez compliqués sur le plan technique. Par ailleurs, il est extrêmement difficile d'avoir des informations précises sur la façon dont ces montages sont réalisés effectivement. Donc, on est assez vite obligé de présenter ces montages sur un plan assez théorique. Mais une des façons de le comprendre assez intuitivement, je crois, dans l'industrie textile, c'est un montage typique, qui n'est pas d'ailleurs uniquement l'apanage de la Suisse, mais ça consiste à sortir la marque d'une valeur ajoutée importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va fabriquer un jeans, par exemple, en Chine. On va le faire acheter par une société qui est en Suisse, qui va le revendre, je ne sais pas moi, ensuite en Allemagne, peut-être, où il sera commercialisé. Et on dira, bon, ce jeans, quand il est acheté en Chine, il vaut peut-être 20 francs. Quand il est vendu en Allemagne, il en vaut 100, parce qu'entre-temps, il a eu la marque dont le droit appartient à la société suisse. Tout ça est complètement immatériel. C'est le même jeans il a déjà l'étiquette avec la marque au moment où il part de Chine, mais on est simplement avec un bénéfice qui est lié à la transaction commerciale effectuée par une société qui peut n'être qu'une coquille vide, au fond, située en Suisse. Et ensuite, on a les bénéfices liés à cette opération qui sont fiscalisés en Suisse.
Donc, cette entreprise, elle a un siège au Tessin, comme tu disais tout à l'heure. C'est une coquille vide et elle est considérée comme société principale et c'est avec ce titre-là qu'elle échappe à la fiscalité, à une fiscalité justifiée, disons.
Alors, en Suisse, il y a plusieurs facilités qui sont offertes par le système fiscal qui permettent ce type de montage. C'est pas uniquement du point de vue des marques, hein. On peut imaginer toute une série d'autres subterfuges. Ouais. Semblables, qui ont finalement un effet semblable. En Suisse, la facilité principale qui est offerte de ce point de vue-là dans l'industrie textile, c'est effectivement le bénéfice d'un statut particulier qui s'appelle le statut de société principale. Et la plupart des sociétés sur lesquelles on a enquêté dans le cadre du textile au Tessin bénéficiaient, d'après ce qu'on a pu voir, de ce statut fiscal.
Est-ce que le Tessin, c'est le seul canton en Suisse dans lequel on trouve ce type de pratique, ou bien, en tout cas dans le textile, parce que, pour toute une série d'autres produits, on en trouve dans d'autres cantons, mais pour ce qui est du textile, c'est le Tessin principalement ?
Oui, alors clairement, on a donc le montage, le statut fiscal dont bénéficient ces sociétés au Tessin n'est pas du tout exclusif au Tessin, on le retrouve ailleurs, mais la présence dominante de secteurs de la mode mondiale, elle est clairement au Tessin. C'est clairement au Tessin que ces sociétés sont situées, oui.
Donc tout le monde, justement autorité cantonale, surtout comme tu viens de le dire, reste discret sur cette branche qui génère des chiffres d'affaires exorbitants. On parle du secret bancaire qui aurait enfin du plomb dans l'aile, mais le secret fiscal, on est bien dans le secret fiscal.
Non, pas tout à fait au sens strict du terme. Le secret fiscal, c'est le fait que lorsqu'un contribuable discute avec l'administration qui le taxe, les communications qui ont lieu entre lui et cette administration, dans le cadre de l'établissement de sa déclaration d'impôt, ne sont pas publiques. Et il y a de bonnes raisons de faire les choses ainsi, et il ne s'agit pas de ça. Ici, on est avec quelque chose de plus large. On est avec une pratique qui est réellement une politique de développement économique tout à fait assumée. Le Tessin a souhaité attirer de telles sociétés et faire qu'elles se développent au Tessin en leur offrant des exonérations fiscales extrêmement importantes qui sont considérées, et là c'est simplement les pratiques, les standards du FMI au fond qui s'appliquent en matière de finances publiques, comme des subventions. Quelque part, le fait de ne pas taxer ces sociétés, c'est assimilable à une aide d'État. Et sur ces chiffres, sur l'ampleur de ces aides d'État, il a été absolument impossible d'obtenir la moindre information consolidée.
Puis alors, vous les avez obtenues comment, ces informations, notamment pour créer vos dossiers dans le journal de la déclaration de Berne vers un développement solidaire ?
Alors, on n'a pas obtenu d'informations chiffrées consolidées pour l'ensemble de la branche. On a fait un certain nombre d'estimations sur la base de paramètres qui nous ont permis de nous donner un ordre de grandeur de l'ampleur de cette activité, des taux auxquels ces sociétés étaient fiscalisées. Donc, on a pu, si on veut bien, estimer un peu l'âge du capitaine pour ce qui a trait à l'ensemble du secteur. Par contre, on a pu être beaucoup plus précis en ce qui concerne un de ces groupes. C'est le groupe Kering, donc anciennement Pinot Printemps Redoute. qui est un groupe extrêmement important à l'échelle mondiale, avec, disons, des activités vraiment mondiales dans le secteur de la mode. C'est un groupe français coté à la Bourse de Paris. Et il se trouve que, par un biais de la législation liée au fond, au droit des sociétés luxembourgeoises, on a réussi à obtenir un rapport d'activité luxembourgeois de la holding qui chapeaute la société du groupe Kering, qui est au Tessin et qui fiscalise en fait l'essentiel des bénéfices réalisés à l'échelle du groupe. Et là, ça nous a permis, mais dans un cas très précis qui est celui de ce groupe Kering, d'avoir des estimations beaucoup plus précises sur l'ampleur en fait de ces pratiques d'optimisation fiscale.
C'est vraiment des enquêtes à la Sherlock Holmes.
Un peu, c'est du journalisme d'investigation. On a ici été, disons, on est assez vite tombé sur des chiffres qui nous semblaient extrêmement intéressants en tant que tels de publier. On n'est pas allé très très loin. Je pense qu'avec des méthodes d'investigation un peu plus poussées, en allant effectivement aussi rencontrer des gens, etc., on pourrait trouver davantage d'informations. Mais ce qui est choquant, c'est pas le fait qu'il faille enquêter de ce point de vue-là pour trouver ces chiffres-là. C'est plutôt le fait que absolument rien à ce sujet-là n'est publié ni par le secteur concerné lui-même au Tessin, ni par les sociétés, ni par les autorités. C'est ça qui est au fond choquant, c'est cette opacité et le fait que quelque part, on doive se baser sur des bizarreries de la législation des sociétés au Luxembourg pour avoir des informations à ce sujet-là.
Mais en fait, c'est vous qui faites ce travail de mise en lumière. Voilà.
Oui.
Je lisais dans un de tes articles que l'OCDE a adopté un plan destiné à rendre plus difficile ces manipulations, ces montages financiers. Donc la Suisse, toujours d'après ce que tu dis, sur cette pression internationale, s'est engagée à supprimer les régimes fiscaux cantonaux.
Oui, c'est juste.
Mais, et puis, notamment dans le cadre de la troisième réforme des entreprises, on en parlera peut-être tout à l'heure, la RIE 3, que le canton de Vaud vient d'accepter. Bon, il y a un échange donc, à ce niveau-là. Par rapport aux multinationales, aux sociétés, parce qu'il est prévu une baisse de taux d'impôt via cette RIE 3. Et ça ne revient pas au même résultat, en fait.
Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc d'abord, il y a deux choses assez différentes. D'une part, il y a un processus international en œuvre depuis maintenant 2007-2008, dont BEPS est une partie, c'est pas le seul élément de cette évolution du dossier à l'échelle internationale, qui vise à quelque part contraindre un peu plus les sociétés multinationales à fiscaliser quelque part les bénéfices résultant de leurs activités à l'endroit où elles réalisent réellement une activité économique. BEPS est une partie de ce plan, de cette évolution internationale dont les déterminants doivent être recherchés d'abord dans la crise des finances publiques qui a secoué les pays développés depuis 2007-2008, depuis la crise financière et la crise économique de 2007-2008. Et dans le cadre, dans cette évolution internationale, il y a eu des pressions assez fortes qui ont été faites sur la Suisse pour que la Suisse abolisse ses statuts fiscaux cantonaux spéciaux, ce qui est une revendication ancienne de la déclaration de Berne déjà. Et la Suisse, finalement, mais sous une forte pression internationale, non seulement de l'OCDE, mais aussi de l'UE, a dû se résoudre effectivement à signer une déclaration disant, dans le cadre de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises, nous allons abolir ces régimes fiscaux spéciaux. Et ça, c'est une bonne chose. C'est clairement une bonne chose. Il est à regretter, quelque part, qu'il ait fallu cette pression internationale pour supprimer une pratique qui était dénoncée en Suisse de longue date et problématique, il me semble, dès qu'on la regarde un tout petit peu sérieusement. Maintenant, cette réforme de la fiscalité des entreprises, elle-même, c'est un objet distinct, c'est un peu une conséquence de ça, mais c'est un objet un peu distinct, qui se compose elle-même de deux étages différents. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais d'une part, on a l'étage fédéral, où on a une réforme de la fiscalité des entreprises, qui, quelque part, détermine comment on peut, on doit imposer les entreprises à l'échelle cantonale. Puis ensuite, on a toute une série de réformes cantonales. Et il est vrai, pour se concentrer maintenant uniquement sur la réforme fédérale, que cette réforme, d'un côté, elle supprime ces régimes fiscaux spéciaux problématiques, mais d'autre part, elle ouvre toute une série de champs qui vont permettre aux sociétés multinationales de continuer à faire de l'optimisation fiscale en profitant de dispositions légales helvétiques. Par exemple, cette fameuse license box, cette imposition préférentielle des revenus provenant de la recherche et du développement. Mais pas seulement, on prévoit la déduction des intérêts notionnels, on parle par exemple d'une taxe au tonnage qui devrait permettre aux personnes, aux sociétés faisant du shipping, donc du négoce de matières premières, d'être imposées de façon préférentielle. Donc il y a toute une série d'autres facilités qui sont offertes par cette réforme de la fiscalité des entreprises. Après, au niveau cantonal, il y a encore une adaptation des taux cantonaux frappant les bénéfices des entreprises. C'est encore une autre histoire. Mais disons, la grosse question pour se concentrer sur le projet de réforme fédérale, c'est de savoir est-ce que finalement les lacunes fiscales qu'on bouche sont plus ou moins importantes que les nouvelles lacunes fiscales qu'on ouvre. Et ça, c'est une question sur laquelle il est extrêmement difficile de se faire un
de
avis,
ouais.
De chiffrer.
Ouais. Ouais. Est-ce que l'initiative pour les multinationales responsables qui sera déposée cet automne et à laquelle la DB soutient de toutes ses forces, est-ce qu'elle touche aussi quelque part le domaine dont on vient de parler ou on est dans un autre domaine, celui fiscal, où il y a tout un travail de lobbying différent à faire?
Non, on est vraiment... Alors l'initiative pour les multinationales responsables se concentre réellement sur les violations de droits humains.
Oui, et environnementaux.
Sur ce que les, voilà, sur ce que les sociétés doivent faire pour éviter de commettre ou d'être complices de telles violations. Et on est très loin, au fond, des questions fiscales et d'imposition des sociétés.
Merci beaucoup, Olivier Longchamp, de nous avoir parlé largement de cette question du négoce du textile. Gros sujet, hein, qui nécessite pas mal de temps. On pourrait encore en parler des heures. On rappelle que vous êtes collaborateur à la déclaration de Berne. Et puis, on remercie également Géraldine Viret, qu'on entendait tout à l'heure. Fabio, que tu as pu rencontrer donc à ton micro, c'était hier. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site www.ladb.ch. La semaine prochaine, Fabio, on parle du négoce et de la spéculation dans le domaine de l'alimentation.
Oui, on le fera avec Samuel Bendaon, qui est docteur en sciences économiques et très engagé dans l'initiative Pas de spéculation pour sur les denrées alimentaires, qui a été refusé par le peuple lors de la votation du 28 février dernier.
Voilà, donc le rendez-vous est pris pour mardi prochain. Sachez encore que d'autres événements dans le cadre de Au nom du profit, tout est permis, se déroulent jusqu'au mois d'octobre dans plusieurs lieux de Lausanne. Vous pouvez trouver le programme sur le site www.autrementsava.ch. On vous met le lien bientôt, bien sûr, sur notre site django.fm. Et puis les prochains événements, je vous les cite rapidement. Demain, mercredi, le 25 mai à 19h30, ici à Pôle Sud, l'obsolescence programmée versus durabilité planifiée, une conférence de François Martalère, et puis le lendemain, jeudi 26, donc dans deux jours, à 18h30 à l'espace Dickens, une conférence sur le lobbying des multinationales, deux cas d'études, le tabac et l'agrochimie. Voilà, le programme complet à retrouver, tout comme ce podcast sur notre site www.django.fm.
Filthy daylight tackled me on my sprint, upside down stuck in cabbage. Did I really think I could win? I followed a fella with the Dracula coat down the grottoes of glitter and the gracious exhibits of smoke. In foreign cafes I'm lost, all my problems delayed. I scarved off from the slopes of deadlock to the pledge I won't take. But there is a conviction flying high up above as I don't. I'm just stealing away, ruefully saying, what is it all for anyway? And then I look up, a skid in the sky, an afterglow deep and diversified wide. Oh, how could I not be in love with this life? Kind little pixies tear up my hair and my clothes as I'm going. don't miss the ridings on my hometown's walls. No, I don't miss my friends, the phone, the calls, or that post-teenage cult that which sprawls. The bust of the composer is watching me close. In great expectation and angry as well, as the snot running out of my nose. Still there is sea conviction flying high up above as I don't as I want. I'm just stealing away, rueful and insane, saying what is it all for anyway. And then I look up, moonbeams in our floating air, blinking like a space center which could probably bring me anywhere. How could I not be in love, in love with this life?
Django, la rose des vents.
Aujourd'hui, dans la rose des vents, nous allons aborder le sujet de la mort sous l'angle de la migration. Beaucoup de migrants et d'exilés en Suisse perdent des proches, mais ne peuvent malheureusement pas se rendre dans leur pays d'origine pour faire le deuil des défunts. Il s'agit donc à présent de comprendre pourquoi elles ne peuvent se déplacer et comment ces personnes vivent le deuil à distance. Alors pour creuser ce sujet proposé par la rédaction de Voix d'Exil, nous accueillons Afif Ghanmi. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur les ondes de Radio Django. Merci. Vous êtes d'origine tunisienne, vous êtes en Suisse depuis 1992, ça fait 24 ans. Vous avez perdu votre père en 2000 et vous n'avez pas pu vous rendre à ses obsèques. Vous allez être interviewée par Mika, rédactrice de Voix d'Exil. Bonsoir.
Bonsoir à Fabien. Effectivement, Fabien, ce sujet des deuils est un phénomène douloureux que tous les migrants à travers le monde, raison pour laquelle j'ai voulu en parler et remercier M. Ghanmi. Pour laquelle je voulais parler, remercier M. Ghanmi de sa présence, car ce sujet n'est pas facile à aborder au radio.
Avec plaisir. Ouais.
Pourquoi vous êtes venu en Suisse?
Je suis venu en Suisse demander l'asile. J'ai fui en fait la dictature de Ben Ali. Mm-hmm. C'était en 1992, comme ça a été dit tout à l'heure. Mm-hmm. Et j'étais chassé par le pouvoir en place. Donc, j'étais opposant politique et j'étais condamné. Mm-hmm. Et j'avais pas de solution, en fait. Je devais quitter le pays par tous les moyens possibles.
D'accord. Et vous avez perdu votre père?
Exactement, j'ai perdu mon père en 2000. C'était pas facile.
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rendu chez vous pendant les deuils?
Alors, c'est très c'est très dangereux de rentrer. Mais en tout cas, moi, mon père était malade et je me rappelle qu'il m'a appelé au téléphone pour me dire, en cas où je décède, ne fais pas la bêtise de rentrer. Ma famille a bien souffert après mon départ. Ils étaient visités chaque jour, le matin, la journée, la nuit, et ceci pendant plusieurs années. Donc mon père lui-même, il a été arrêté à plusieurs reprises, il a été mis à nu, lui-même il a vu ma mère, mes petits frères également, terrorisés, arrêtés, voilà, mon grand frère également, donc ils sont tout le temps à la maison. Donc ça c'est vraiment une situation particulière, donc...
Afif Kanmi, pourquoi vous parlez d'une erreur? Pourquoi votre papa vous disait « ne fais pas cette erreur de revenir »
Alors, il m'a conseillé en fait de ne pas rentrer et que, parce qu'il sait, pertinemment ce qui conseillait en fait de ne pas rentrer. Donc, il sait très bien ce qui m'attendait en cas où je revenais là-bas. Parce qu'il sait qu'en cas où il décède, lui, il ne va pas revenir. Mais moi, je serai arrêtée et la famille sera inquiétée.
D'accord. Et comment vous avez vécu cela, d'être loin de votre famille?
Alors, il faut dire que ce n'est pas facile. D'ailleurs, maintenant même, j'ai des émotions là, qui se réveillent. Ouais. C'est pas facile. Pour moi, j'étais un petit peu... intellectuellement, je me dis, ouais, il est décédé, on m'a informé, en fait. Et d'ailleurs, même quand ils m'ont informé, j'ai encore, jusqu'à maintenant, des doutes, en fait, qu'ils ne m'ont pas informé au moment du décès. Ils ont laissé un jour ou deux après l'enterrement pour m'annoncer le départ de mon père. Et moi, je suis resté, en tout cas, je me rappelais très bien une période de plusieurs années, 3 ans en tout cas. Et pour moi, mon père, il n'est pas décédé. J'étais un peu dans les dénis, effectivement. Intellectuellement, oui, je sais, voilà, on m'a dit, voilà. Mais intérieurement, je le voyais déjà dans mes rêves plus fréquemment. Pour moi, il est encore présent. Et c'est pas facile. J'ai essayé même avec un peu de logique de dire, ben voilà, accepter. Mais c'est, émotionnellement et au fond de moi, c'est pas facile. Parce que je l'ai pas vu partir, j'ai pas vu le corps, j'ai pas pu l'accompagner avant son décès. Voilà, c'était juste le téléphone ou des informations par-ci, par-là, voilà. Donc, c'était une période très difficile. Mais voilà, j'ai pu vivre avec ça. Donc, comme le départ, déjà, de faire le deuil du pays d'origine, de s'installer en Suisse, c'est pas évident. Alors, j'ai aussi appris, au fur et à mesure, à vivre avec ça.
Et est-ce que c'est possible de faire le deuil d'un proche sans vivre le processus du deuil?
Alors, c'est pas facile du tout. Donc, c'est vrai que ça se réveille en moi à chaque fois que j'entends un ami qui est en exil, qui perd un proche, tout ça. C'est vrai que, voilà, la phrase que je redis à chaque fois, j'ai aussi vécu la même situation et c'est pas facile. C'est pas facile du tout, surtout lorsqu'on a un lien très fort avec son père, sa mère, quelqu'un de la famille, et c'est pas évident. Et il y a un trou, il y a un vide énorme. Et puis c'est vrai que il est en moi encore maintenant. Donc bien que maintenant, depuis 2000 jusqu'à 2000, il y a 16 ans maintenant depuis son décès, mais ça a été quand même réparé en bonne partie après mon retour au pays.
Parce qu'alors, vous êtes retourné au pays après coup?
Alors, je suis rentré après le printemps arabe, juste après le départ de Ben Ali. Donc, j'ai dû quitter le pays pour... qu'il a dû quitter le pays et puis me donner à moi l'occasion de retourner. En fait, je suis retourné au pays, ça a été même couvert par la télévision suisse romande, malheureusement, par la télévision locale et en fait tunisienne et plusieurs radios. Mon arrivée a été quand même immédiatement au niveau média,
il
a
médiatisé, été médiatisé.
Et c'est vrai que quand je suis rentré, la première chose que j'ai pu faire, c'est d'aller sur sa tombe et de faire une prière pour son âme. Effectivement, pour moi, j'ai vu sa tombe, j'ai vu son nom le jour de son décès, et c'était pour moi une réparation après de plusieurs années de voilà, de un peu d'incertitude, mais c'est pas une incertitude, mais en tout cas de une situation qui n'est pas confortable. Voilà, j'ai pu mettre un petit peu, comme on dit, les points sur les i.
Est-ce que la famille vous a-t-elle comprise, vos proches ne vous en veulent pas par rapport à ça, de ne pas être là pendant le vénement?
Non, pas du tout. La famille était très compréhensive et savent très bien, comme d'ailleurs mon père avant son décès, il m'a déjà conseillé de ne pas rentrer en cas de décès. La famille également ne souhaite pas mon retour parce que la situation n'était pas favorable, n'était pas prête pour un retour pareil. Par contre, mon retour après le printemps arabe a été effectivement une bonne nouvelle pour tout le monde, pour ma famille qui a vu enfin le fils rentrer après toutes ces années d'exil et visiter la tombe de son père. Et un petit peu, voilà, c'était un petit peu le pansement qui soigne un petit peu la plaie. Voilà, c'était un petit peu... Donc, il y a une grande compréhension de la part de la famille, mes frères, mes proches aussi, ils le savent très bien que je ne peux pas, de toute façon, rentrer. Je l'ai fait après le décès de ma tante, oui, je suis rentré après le printemps arabe, et je l'ai fait tout de suite. Donc, j'ai tout de suite pris l'avion, parce que j'ai la possibilité de le faire, et puis voilà.
Vous avez l'occasion d'en reparler et vous en parlez encore actuellement avec vos frères, vos sœurs, votre famille?
Alors oui, c'est un sujet de discussion surtout avec ma mère. Rien que dernièrement, j'étais chez elle pour 2 semaines et puis elle m'a raconté en détail l'hospitalisation de mon père et son décès, tout ça. Et puis ça, pour moi, c'est vraiment c'est un petit peu un puzzle que j'étais en train de mettre en ordre, d'arranger. Et puis voilà. Tout ça, ça m'a permis un petit peu de faire clôturer cette histoire.
C'est ce qu'on appelle faire le deuil.
Faire le deuil, effectivement, qui a pris plusieurs années.
Évidemment. Merci beaucoup, Afif Ghanemi, d'avoir partagé votre expérience à distance du deuil et de nous avoir partagé avec sincérité votre douleur.
Merci à vous.
Merci beaucoup et on remercie également Mika de la rédaction de Voix d'Exil pour la préparation de ce sujet. Et puis je vous renvoie encore sur le blog de Voix d'Exil, voixd'exil.ch, pour lire plus de 445 articles consacrés à la question de l'asile et de la migration. Et puis bien sûr pour écouter cette interview, rendez-vous naturellement sur www.django.fm.
Merci. Radio Django à écouter sur radio.django.fm.
Ce soir, dans La Rose des Vents, nous parlons de la situation des droits de l'homme en RDC, c'est la République démocratique du Congo, et plus précisément, nous allons parler de l'impunité. L'Ordre des avocats vaudois a organisé conjointement avec Vivere, jeudi 19 mai, une conférence sur ce thème à l'Hôtel de la Paix à Lausanne. Alors, malgré différentes initiatives locales et internationales, la situation est-elle encore en train de se péjorer, Daniel ?
En effet, cette région reste soumise à des tensions sociales et politiques depuis plusieurs décennies, et elle continue d'être le théâtre de luttes sanglantes pour le pouvoir central ou régional. Il y a de nombreux épisodes de guerre civile, il y a une présence étrangère très forte, et ce qui entraîne aussi un phénomène de corruption, phénomène auquel tout le monde participe, autant les Congolais que les Rwandais et les Burundais, et la population continue d'être la cible. Meurtres, viols, détentions sont le lot du quotidien. Depuis le début du conflit, en août 1998, il y a eu plus de 5 millions d'êtres humains qui sont morts. Les enfants représentent 45% des victimes et le viol de masse continue d'être une arme de guerre. Dans la majorité des cas, ces viols et ces crimes restent impunis.
Et puis, il n'y a pas d'enquête là derrière.
Et pas de justice. Concernant les enquêtes, disons que ce n'est pas systématique. Et c'est dans ce cadre que des associations locales et internationales travaillent de concert pour aider la population à faire respecter ses droits et surtout permettre aux victimes de torture et de sévices sexuels d'être entendues et retrouver une forme de justice. Vivere, une association lausannoise qui œuvre pour rétablir le droit élémentaire de vivre, est très engagée au sud du Kivu, une région de l'est de la RDC, où l'impunité est la règle, notamment par la faiblesse et l'indigence du système judiciaire.
Alors, comment agir concrètement cette association dans cette région du monde? Comment est-ce qu'elle peut faire?
Alors, Vivere organise conjointement avec l'UCPDO, qui est l'Union chrétienne pour la défense des droits de l'homme et le progrès des chambres foraines dans des régions reculées, pour permettre aux victimes de torture et de violences sexuelles de retrouver justice. Ces procès sont une manière de lutter contre l'impunité. Le 18 mai, j'ai eu l'occasion, au cours de la conférence organisée par l'Ordre des avocats vaudois, de rencontrer Maître Sami Mukombozi Kaindo, avocat au barreau d'Uvira, un territoire de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, président donc de l'UCPDO. Il est responsable des actions de Vivere en RDC.
Les chambres foraines que nous organisons, certainement, ont un objectif. Le premier de ces objectifs, c'est que c'est la promotion du droit de l'homme. À travers ces droits de l'homme, c'est la promotion des droits d'accès à la justice. Parce que les personnes n'arrivent pas, ne savent pas comment ils peuvent se plaindre, comment on peut aboutir à un procès. Et notre objectif des chambres foraines, c'est de rapprocher la justice des justiciables. C'est comme quelqu'un qui dirait une justice de proximité. Un autre objectif plutôt de la chambre foraine, c'est effectivement sanctionner en audience publique, en donnant des leçons, effets dissuasifs pour les autres qui pourraient se commettre, et permettre enfin, en fin de compte, aux victimes de réclamer la réparation en justice.
Et est-ce que la population est sensible en fait à ces chambres foraines?
Très très sensible, parce que ça leur donne un peu d'espoir. Lorsqu'on arrive à mettre la main sur celui qui a commis ces forfaits ou bien ces crimes, lorsqu'on arrive à prononcer des sanctions devant les membres de famille, devant les victimes, devant la communauté, lorsqu'on arrive à prononcer les peines d'indemnisation, donc les dommages et intérêts devant, ça donne quand même quelque chose à la population. Et dès que la justice rend ce genre de jugement, ça permet de mettre ces bourreaux ou bien ces malfaiteurs hors d'état de nuire pour les autres.
Mais est-ce que les victimes sont en mesure de dénoncer? Est-ce qu'elles n'ont pas peur?
Oui, les victimes, ils ont plusieurs moyens de dénoncer. Il y a cela. D'abord, nous faisons la sensibilisation pour leur dire qu'il ne faut pas se taire. Le temps de silence est déjà dépassé. Il y a cela qui s'approche de notre organisation ICPDO, pour nous demander des conseils. Nous nous disons, voilà, vous allez faire ça. Nous faisons l'accompagnement juridique jusqu'à ce que nous puissions faire l'autre étape de l'assistance judiciaire.
Par année, vous vous rendez combien de jugements et il y a combien de dénonciations en moyenne?
Avec Vivere, par exemple, nous parvenons à organiser au moins 3 à 4 audiences foraines par année avec la justice militaire.
Et au cours de ces audiences foraines, vous jugez combien de personnes?
Au cours de ces audiences foraines, nous parvenons à juger 4, 5, 6 ou 7 causes avec des jugements motivés. On peut avoir par année à peu près 15 jugements. Et là, ce qu'il faut souligner, effectivement, nous ne prenons pas toutes les causes qui se trouve à la justice, nous prenons surtout les causes des personnes qui sont indigentes, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de moyens de se mouvoir en justice. Nous prenons les causes des femmes victimes de violences sexuelles, nous prenons des causes des personnes qui sont victimes de violations des droits de l'homme, des cas de torture, des arrestations qui se commettent au fin fond. En fait, les chambres foraines que nous organisons, c'est-à-dire les tribunaux quittent les milliers qu'on appelle souvent centre chez nous, donc là où siègent les institutions, et va dans des milliers ruraux. Là où les gens ne savent ni quoi, qu'est-ce que la justice. Alors, à travers les enseignements que nous faisons, à travers les sensibilisations, on leur montre, voilà comment tout individu doit sauvegarder, doit protéger, doit dénoncer ces histoires des droits de l'homme.
Combien coûte une audience foraine?
Oui, une audience foraine coûte 5 000 à 10 000 dollars, selon les distances qu'il faut parcourir. Mais généralement, c'est... et les temps qu'il s'agit pour apprendre, et selon le nombre de dossiers qu'il faut instruire.
Et vous recevez des subventions de l'ONU, en fait, pour pouvoir organiser ces audiences foraines?
Le plus gros de nos financements, pour nous qui sommes une organisation locale au niveau du site Kivu Uvira en particulier, provient de l'organisation Vivere. Et avec, étant sur terrain, nous travaillons avec la MONUSCO, section droits de l'homme, bureau congé des Nations Unies aux droits de l'homme, qui parfois nous aide à intervenir, surtout sur le plan logistique. Je peux dire que là, ils cofinancent, mais pas en entièreté. Tandis qu'avec l'organisation Vivere Suisse, là, c'est, ils prennent tout
en charge
jusqu'à ce que les jugements aboutissent. C'est de façon-là que nous nous luttons contre l'impunité. Parce qu'il y a des crimes qui, jusqu'à aujourd'hui, demeurent sans suite.
Samy, vous êtes avocat. Est-ce que vous ne craignez pas des fois des représailles de la part des personnes qui sont jugées, voire de leurs proches?
Oui, bon, en tant qu'humain, on peut avoir des craintes, mais nous nous sommes déjà engagés dans la défense des droits de l'homme. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Et lorsque je suis persuadé que l'action que je mène ne cause en aucun cas de préjudice à qui que ce soit, moi, je suis là pour la population. Nous sommes en train de lutter pour la population. Et nous pensons que c'est de cette manière-là. En créant notre organisation ICPDO, c'était parti sur base d'un constat. Donc, on ne peut pas croiser les bras et voir comment les gens sont en train d'être victimes de leurs droits. Et là, on dit souvent que c'est lui qui paye et qui n'empêche pas pêche. Alors nous, on a fait et nous apportons ce que nous pouvons apporter au bénéfice de la population.
Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm. Nous parlions du Congo avec Maître Samy Mukombozi. Merci Daniel.
Radio Django, culture.
Et sans transition, à 18h46, nous passons à Cultiver Lausanne. Et ce soir, l'association Troc, qui œuvre pour le développement de la scène musicale suisse et Radio Django, invite ce soir Fabé Griffin pour la sortie de son premier album, Summer X Time, dont le vernissage a eu lieu le 4 mars à l'usine à gaz de Nyon. Jean-Luc.
Oui, ça fait très peu de temps. Hein. Bonjour Fab. Hein. Je sais pas, c'est Fab, Fabe.
Fabe. Comme vous préférez, c'est égal.
Non, mais Fabe, c'est mieux quand même. Hein.
Ouais, c'est tout récent, ouais.
Oui, alors plusieurs personnes le disent, hein, votre musique, elle n'est pas très facilement classable. Hein.
Non, hein, c'est comme ça qu'on se présente d'ailleurs.
Ouais. C'est vrai, expérience de scène hein, qui passe de formations d'inspiration diverses à hip-hop, rock, pop. Alors, quelques mots quand même sur ton parcours musical. Parce que...
Alors, moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on va dire, à faire un peu de la musique et à jouer dans différents groupes. Et c'est vrai que j'ai commencé par le hip-hop, qui était un peu ma première passion. Donc en faisant du rap, et puis après, moi, je me suis aussi mis... j'ai toujours fait un peu de piano et un peu de compo, donc j'avais aussi commencé à faire un groupe de pop-rock avec des potes à l'époque de l'école et tout ça. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai commencé à tourner dans différents trucs sans vraiment trop me demander quel style je voulais faire, en fait, parce que j'aimais bien faire de la musique, tout simplement, et puis partager ça avec d'autres gens et pouvoir faire des concerts. Et... Donc c'est vrai que j'ai fait un peu de tout, du hip-hop, de la pop, du rock, du punk, enfin voilà. Voilà. Et c'est comme
après
ça que j'ai
trouvé sa personnalité. Hein.
Voilà, donc ensuite, avec tout ça, j'ai voulu faire par la suite un projet solo, on va dire, enfin qui me correspondait plus à moi. Et puis j'ai fait la rencontre d'un batteur qui s'appelle Francis Chaussel, qui est un batteur qui vient plus du monde du jazz à la base. Et puis on s'est bien entendu, on a assez vite eu envie de monter un projet ensemble. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa que je vienne avec des compos en fait. Et qu'on réarrange ça ensuite avec des musiciens et qu'on prenne la touche hip-hop que j'aimais bien, que j'avais envie de garder parce que j'aime bien toujours continuer à rapper et montrer ça dans ma musique. Et puis, mais pas s'arrêter seulement à là. Et puis, plutôt que de bosser sur des samples, des instrus, comme ça se fait beaucoup, faire vraiment des compos et arranger avec des musiciens en live et partir dans un peu toutes les directions qu'on voulait sur mes compos, quoi.
Et vous venez donc de la région de Nyon.
Voilà.
Vous avez inauguré votre album Summer X Time le 4 mars à l'usine à gaz.
Exact.
Vous êtes parti au New Jersey pour faire des études. Est-ce que oui. Ce séjour aux USA, il a eu une forte influence sur votre parcours musical ?
Sur la musique, je dirais pas forcément. C'est vrai que moi, j'ai toujours été très attiré par les États-Unis depuis tout gamin, et j'avais toujours eu envie de partir là-bas. Et c'est vrai que c'était une super expérience de pouvoir aller habiter là-bas pendant un certain temps. J'étais pas loin de New York, et c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique qui venait de New York quand j'étais ado et tout ça. Donc c'était très très cool de pouvoir me retrouver là-bas. Et puis mais c'est pas forcément là-bas. Il y avait un peu une scène locale où j'étais, et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de groupes et de musiciens aussi dans le coin. Mais c'est plus presque en revenant après que j'ai développé encore plus ça. Ouais.
Mm-hmm. Super.
Donc je crois qu'on va écouter un extrait de ta musique. Quel titre c'était ?
WCAB, Smile, One Smile.
Ouais, WCAB.
I wish someday I could live in my heart. But for this day to come, it's gonna be hard. Should I give it all up and take the risk of having nothing at all but my music? Ring the alarm, put an end to your dreams. They were not made to be real, but here I am, still in the arms of Morpheus. And it feels just like I'm on some morphine. I need some more sleep, so I hit the snooze button. But 15 minutes go by, it's like a second, so I hit it a second time. As if the alarm clock full of compassion said, baby, no mind, take your time, it's gonna be fine. You just need to relax, close your eyes, your lids are heavy, just let them drop. But as it goes off, the snake knows that if I now go back to sleep, I'll never make it on time. Just like every day, I gotta leave in a rush. No time to shave or I'd miss the bus. Yeah, just a quick shower, put on a shirt and trousers. Breakfast is for losers, I'm on my way to work.
I wish someday I could live in my heart.
Oui, alors un arrangement intéressant avec des chœurs, hein, une musique un peu planante. Une voix claire, hein, plusieurs personnes aussi l'ont dit. Hein. Elle sort bien sur ce tapis.
Merci beaucoup.
Et par contre, moi, ça m'a toujours intéressé sur un peu comment est le processus de création. C'est d'abord les paroles, c'est plutôt la musique, c'est l'ambiance sonore. Comment tu travailles par rapport à ça ?
En général, c'est d'abord la musique. J'aime bien, même quand j'ai une idée ou que j'ai envie d'exprimer quelque chose, je vais commencer par me mettre au piano, en fait. Et puis, je compose souvent au piano-voix. Et puis les paroles, ça dépend en fait, ça me vient souvent, j'ai un peu des idées, des fois c'est même juste des rimes qui me viennent, ou juste des idées comme ça qui me viennent sans qu'il y ait vraiment de mots, mais il y a juste un peu des phrases comme ça qui veulent pas dire grand chose au début, et puis
écriture automatique.
Et puis voilà, et que je retravaille un petit peu comme ça derrière pour et après ça part sur des différents thèmes et sur différentes choses à partir de ça. Et parfois j'ai envie de parler d'un thème précis, et du coup là c'est un peu différent. C'est vrai que ça dépend aussi quand j'écris quand c'est plus pour du rap, ou quand c'est plus pour des parties chantées. J'aime bien justement faire ce travail au piano. Et puis hip-hop, c'est des fois plus un texte aussi.
Parce que scander des paroles sur une musique un peu plus douce, ça te plaît, parce que c'est, voilà, bon, ça devient maintenant plus fréquent, hein, que les rappeurs s'exercent sur la musique de ce type-là. Mais comment tu vises à cette manière de scander en fait ces mots sur un tapis sonore,
de mélanger ce côté hip-hop, chant, et puis sur des bases un peu jazz, un peu
douce, type d'harmonie.
C'est vrai que moi c'était la première fois que je faisais ça. J'ai toujours beaucoup aimé le jazz aussi. Mon père était pianiste de jazz en fait, donc j'ai grandi aussi un peu dans cet univers-là. Et c'est vrai que le côté hip-hop, ça me plaisait aussi de faire ça sur des instrus, enfin le hip-hop classique et tout. Mais quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à jouer ensemble, au début on a même essayé de reprendre un peu des prods qui sont plus voilà, des choses faites en studio, etc. Et de les reprendre en live, puis on avait le sentiment que ça fonctionnait pas forcément. Et on a essayé de reprendre ça avec en le faisant vraiment de manière plus simple, et en laissant les instruments aussi amener leur touche, et puis les musiciens amener leur touche aussi. Et du coup, ça c'est parti dans ce truc là et on s'est laissé un peu porter en fait par le truc, parce que ça nous plaisait, quoi. On trouvait qu'il y a quelque chose de cool.
Nathan Mellet, chargé de communication pour l'association Troc, a une question. Il est autour de la table avec nous.
Oui, donc là, on a écouté WCAB qui parle d'un rêve, celui de vivre de son art.
Voilà.
Est-ce qu'on revient un peu au thème de Summer X Time? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du thème et puis du choix de chanter en anglais aussi?
Alors, c'était...
Summer X Time, qui est le nom de l'album. Hein.
Voilà, ouais, tout à fait. Donc, Summer X Time, en fait, c'est un titre que j'ai trouvé parce qu'on a commencé à faire cet album dans une période où j'avais décidé de me consacrer à la musique pendant un certain temps, en fait. Et j'ai pris 6 mois pendant lesquels j'ai fait que ça. Et c'est à cette période qu'on a créé ce projet, qu'on s'est rencontré avec le batteur et avec les autres musiciens. Et le tout s'est fait en très très peu de temps, en deux mois, on était en studio en fait. Et c'était donc en août l'année dernière. Et puis le titre, en fait, ça représentait simplement ça. C'était la première fois où, parce qu'après après 10 ans avoir fait boulot et puis jongler entre boulot et musique, c'était la première fois que je peux me consacrer à ça pendant tout un été pendant lequel on a composé cet album. Et ce titre, il voulait évoquer ça justement.
Donc on était très productif.
Voilà.
D'ailleurs, avant de passer à un deuxième extrême, quelques mots sur les musiciens. Moi, je suis j'étais très enthousiaste tout à coup d'entendre Adriano Cor.
Voilà.
En fait, depuis un certain nombre d'années, on fait des émissions, enfin, on fait des événements dans les quartiers. Et Adriano Cor est un jeune musicien qui a 18 ans maintenant. Mm-hmm. Et depuis l'âge des 12 ans, il est quasi virtuose. Et c'est étonnant de le retrouver, au fait, avec d'autres types de compositions. Avant, c'était vraiment plutôt du jazz standard, avec beaucoup de virtuosité.
Ouais, ouais.
Et là, on le retrouve une espèce de... C'est beaucoup plus simple, plus pur, enfin, des harmonies. Donc, il semble que lui, il ait pas mal travaillé sur les arrangements.
Alors, on a beaucoup bossé ensemble, en fait. C'est vrai que moi, j'avais évidemment, vu que j'ai composé aussi au piano, j'avais certaines idées que je voulais garder. Lui, il a amené un peu aussi ses idées. Et c'est vrai qu'on a énormément travaillé dans les arrangements avec Adriano et avec Francis, le batteur. Eux, ils avaient en fait un duo de jazz qui s'appelle Symbiosis. Et en fait, on a le tout premier concert qu'on a fait, c'était juste à trois, en fait, à QI Jazz pendant un de leurs concerts où moi j'étais venu faire 3 morceaux avec eux. Et c'était vraiment une belle rencontre. Et Adriano, c'est vraiment il a à peine 18 ans et quand on a composé ça, il en avait entre 16 et 17 et c'est vraiment un petit génie. Et j'adore son style et ce qu'il a apporté au projet. Donc c'est...
Alors, tu viens de me dire que lui peut pas faire tous les concerts. Vous avez
alors voilà, c'est un peu compliqué pour lui parce que concerts. Voilà, il est encore un peu jeune, donc il a certaines obligations. Et puis, et c'est vrai que maintenant, le pianiste du groupe actuel, c'est Gauthier Tou, qui a aussi un trio de jazz qui tourne beaucoup en ce moment. Il vient de sortir un album. Il a fait QI récemment. Il est toutes les semaines en concert. Là, il tourne énormément. Et puis, il y a Erwan Valadza, qui est à la guitare, qui joue aussi avec Gauthier qui les accompagne quand ils sont plus que 3. Et puis,
un tromboniste,
William Jacquemet. Et puis voilà, je crois que j'ai résumé l'équipe.
Oui, comme sur le prochain titre, on va passer Gone Wrong. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce...
Alors, Gone Wrong, c'est plus un titre... donc là, il y a moins le côté hip-hop. C'est vraiment une chanson que j'ai composée piano-voix et voilà, qui me tient beaucoup à cœur parce que j'aime beaucoup ce morceau. Je l'ai écrit il y a déjà pas mal d'années en arrière, mais c'était génial de pouvoir le réarranger avec tous les musiciens. Et c'est un autre style.
Calling out for help, but it seems nobody heard. At least not the ones who could have helped him to emerge. He was looking for answers, but the wrong ones were given. He was only a kid, but ruined it all in a minute. He had it wrong, wrong, wrong. One could never forgive, even if forgiveness would have allowed him to live. A life between walls, a life without daylight. He wasn't asking for freedom, only more time to pay back. But now he's gone, gone, gone.
Okay.
Try to help with
the time he was given, just trying to rip and pray for people to listen. Grew into an adult in a federal state prison, trying to build up a bridge over an uncrossable river. It's the only God can judge, I guess, only God can forgive. If this man had what he deserved, then I truly hope he did. Since justice on this earth is not equally perceived, when men feel they have a right to kill, and when they have a right to live, he's gone wrong.
Oui, alors une belle balade en mineur avec le piano qui est très présent. Tu viens nous dire en aparté que vous avez pas mal discuté avec Adriano Corte, bon, qui est aussi pianiste. Voilà, comment ça se passe pour mélanger en fait les idées des gens?
C'est important de garder ce que chacun veut amener et que tout le monde soit content du résultat final. Je pense, moi j'aime bien mélanger les différentes influences et les différents styles de chacun. Et Adriano, c'est un très bon pianiste qui a amené beaucoup de très bonnes idées. Et puis c'est vrai qu'après, moi c'était aussi un peu mon petit bébé, donc j'avais envie de garder certaines idées aussi. Mais ça s'est passé très bien.
Ouais, donc un travail collectif quand même.
Clairement.
Nathan, pour Troc, cet artiste figure sur votre compilation?
Pas encore, mais c'est fort probable qu'on le recontacte prochainement pour la compile qui sortira en août ou en septembre.
Voilà, c'est une exclusivité donc que tu nous donnes ce soir, Nathan.
Tout à fait, surtout que l'album vient de sortir, Summerix Time, le 4 mars il est sorti.
Voilà, qui est parfait. Est-ce qu'il y a des concerts bientôt prévus?
Alors, on est en train de planifier en fait les concerts de la rentrée à partir de septembre, octobre. Et puis là, pour le moment, on a la fête de la musique qui est prévue le 18 juin à Nyon. On sera sur la scène du château le soir vers 21h et quelques. Et puis, on va annoncer les prochaines dates sur notre site ou sur notre Facebook prochainement.
Et bien voilà, alors à suivre, www.fabgriffin.com.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup d'être venu
Merci
nous parler de ce nouvel album Summerix Time qui vient de sortir et qui est logiquement en vente et qu'on peut trouver un peu partout.
Sur Internet principalement et au concert. Et voilà.
Et voilà, on viendra vous voir. Merci beaucoup. Merci également à Jean-Luc et puis à Nathan Melet, chargé de communication pour Troc. Une chronique à retrouver sur notre site www.django.fm.
Radio Django, 18-19h.
Les mardis de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur et des coups de griffe. L'un n'empêche pas l'autre, semble-t-il. Des coups de cœur et des coups de griffe à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. Même s'il n'est pas insensible au charme des blouses d'infirmière, me disait-il hors antenne, notre chroniqueur Stéphane, passablement hypochondriaque, a dû prendre sur lui cette semaine pour aller au CHUV visiter l'exposition de Nicolas Zaric. Il en revient toutefois ravi, comme vous allez pouvoir l'entendre, et sans aucune maladie, en tout cas pas encore déclarée jusqu'à maintenant. Il croise d'ailleurs toujours les doigts depuis, ce qui ne l'a pas aidé à dactylographier cette chronique.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Le portrait d'un artiste qui débute par un éloge de la sieste, vous pensez si ça me parle? À plus forte raison si, quelques minutes après, on voit ledit artiste, en salopette plutôt qu'en costume trois pièces, dans son atelier plutôt que lors d'un vernissage, s'activer à malaxer de la glaise, à faire un coffrage ou à couler du béton. Tout ça en nous captivant, grâce au pouvoir magique de la technique cinématographique et à un usage judicieux de la voix off de ses propos pertinents. Cet artiste, c'est Nicolas Zaric. Et le documentaire qui lui est consacré se nomme « Face au glacier » en référence aux deux sculptures qu'il a exposées de fin juin 2014 à fin septembre 2015 aux abords de la cabane du Triant en Valais. Pour découvrir ce court-métrage, de même que la trentaine de pièces regroupées aujourd'hui sous le titre Abbraccio, il n'est toutefois pas nécessaire de chausser ses souliers de marche, de se munir d'un gros chandail, ni même d'un tube de crème solaire. Il suffit d'emprunter le M2 par n'importe quel bout qu'il se présente et de descendre à l'arrêt Chuve. Toutes ces œuvres, dont une belle lithographie, étant visibles, de même que le film, diffusé en continu sur une borne, fort heureusement vu le boucan ambiant muni d'écouteurs, de 8h du matin à 8h du soir, jusqu'au 23 juin, dans le hall principal de l'établissement hospitalier. Et pour ce qui est des œuvres elles-mêmes, toutes superbes, elles m'évoquent aussi volontiers Benjamin Rabier pour l'expressivité des têtes animales que l'art inuit pour certaines postures, telles que celles adoptées par le plantigrade acrobate dans la seconde version de L'ours sur sphère. Toutefois, ce qui me ravit peut-être encore davantage dans ces pièces, c'est la maestria avec laquelle, par le recours à la couleur autant que par la manière dont il travaille le béton, Zaric réussit à rendre un matériau si notoirement moche en quelque chose de si beau. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. Le textile dans la série de la campagne au nom du profit des multinationales, le deuil à distance, l'impunité et les droits de l'homme au Congo, les nouvelles découvertes musicales avec Troc et les mardis de Stéphane Venanzi. Voilà, c'était le programme qu'on vous proposait pour cette soirée du 24 mai sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver sur notre site internet en podcast www.django.fm et en vidéo sur Facebook. La semaine prochaine, nous aborderons une nouvelle question dans la campagne au nom du profit des multinationales. Nous parlerons de l'alimentation et puis nous découvrirons également Musicos, la musique dans les quartiers. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau Grand Direct mardi prochain à partir de 18h, une émission comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud. D'ici là, je vous souhaite une très belle suite de soirée à l'écoute de nos programmes et à bientôt.